L'araignée de Hans Heinz Evers. À l'époque où l'étudiant en médecine Richard Brackmont prit la décision d'établir ses quartiers dans la chambre 7 du modeste hôtel A. Stevens, au numéro 6 de la rue du même nom, trois personnes s'étaient pendues, trois vendredis consécutifs, à la croisée de fenêtres de cette même chambre. Le premier suicidé était un voyageur de commerce helvétique. On ne découvrit son corps que le samedi soir. Le médecin constata que le décès remontait à la veille, probablement entre 17 et 18 heures. Le cadavre se balançait au bout d'un solide crampon fiché dans la croisée et qui servait manifestement à suspendre des vêtements. La fenêtre était close. En guise de lacet, le mort avait utilisé le cordon du rideau. Les jambes rasaient le sol car la fenêtre était fort basse. Il était évident que la victime avait dû déployer une détermination considérable dans l'accomplissement de son dessein. L'enquête permit ultérieurement d'établir que le mort était marié et père de quatre enfants, que ses revenus matériels étaient assurés et qu'il témoignait la plupart du temps d'une humeur enjouée. On ne découvrit ni papier ni testament ayant quelque rapport avec le drame. Aucun proche ne fit davantage état d'une quelconque déclaration laissant présager un acte de désespoir. Le deuxième cas n'était guère différent. L'artiste Karl Krause, spécialiste de la métamorphose à bicyclette, dans la troupe du cirque Medrano, dressée non loin de là, occupa la chambre 7 deux jours plus tard. Son absence à la représentation du vendredi suivant incita le directeur du cirque à envoyer le groom aux nouvelles. Dans la chambre non verrouillée, il découvrit l'artiste pendu sans vie à la croisée, apparemment dans des circonstances analogues. Ce suicide ne parut pas moins mystérieux que le précédent. Unanimement apprécié, Krause jouissait d'un traitement substantiel et s'adonnait à toutes les joies de l'existence dans l'euphorie de ses 25 ans. Ici également, pas d'écrit ni de déclaration compromettante. La vieille maman était la seule survivante. Son fils lui transmettait scrupuleusement 300 marks, le premier de chaque mois, pour subvenir à ses besoins. Ce deuxième décès étrange dans la même chambre eut des répercussions très fâcheuses pour Madame Dubonnet, la propriétaire de l'humble et médiocrement rentable auberge, dont la clientèle se composait presque exclusivement de comédiens du variété Montmartre tout proche. Déjà, certains de ses hôtes avaient pris le large, d'autres, des clients réguliers, pourtant n'étaient pas revenus. Elle se tourna vers le commissaire du 9e arrondissement, un ami personnel, qui lui promit de faire en sa faveur tout ce qui était en son pouvoir. Il ne se contenta dès lors pas d'investiguer avec un zèle tout particulier sur les causes de ce double suicide. Il mit également à la disposition de la tenancière un de ses subordonnés qui s'installa dans la pièce mystérieuse. Charles-Marie Chaumier, l'agent en question, se proposa spontanément pour cette mission. Il paraissait particulièrement désigné pour rencontrer les spectres dont jasait la rue Stevens, cet ancien marsouin, ce fantassin de la marine qui pouvait s'enorgueillir de quelque 11 années de service. Au cours de longues veilles nocturnes solitaires en Annam et au Tonkin, ce sergent n'avait-il pas accueilli à coups de lebel plus d'une visite indésirable de pirates fluviaux se rapprochant en rampant à la façon des félins? Il occupa donc tranquillement la chambre dès le dimanche soir et se glissa au lit avec satisfaction, non sans avoir fait honneur royalement aux plats et aux boissons de la digne Madame Dubonnet. Matin et soir, Chaumier réservait une brève visite à la permanence de police pour faire rapport. Les premiers jours, il se borna à déclarer qu'il n'avait pas remarqué le moindre indice. Le mercredi soir pourtant, il laissa entendre qu'il suivait une piste. Pressé d'en dire davantage, il demanda l'autorisation de garder provisoirement le silence. Il ne pouvait en effet pas établir avec certitude si ce qu'il croyait avoir découvert avait réellement un lien avec le double décès. Il craignait vivement de se tromper et de se trouver, de ce fait, en butte au sarcasme. Quand il se présenta au commissariat le jeudi suivant, il semblait relativement moins assuré, plus préoccupé aussi. On ne put en tirer cependant aucune déclaration. Le vendredi matin, il reparut assez agité, mi-sérieux, mi-souriant. Il émit l'opinion que la fenêtre exerçait un étrange pouvoir d'attraction. Il soutint cependant que ce phénomène n'avait pas de rapport avec les suicides et qu'on se gausserait de lui s'il en disait davantage. Le même soir, on l'attendit vainement à la permanence. On le retrouva, pendu, au crampon de la croisée. Cette fois encore, les indices correspondaient au détail près aux observations relevées lors des cas précédents. Les jambes traînaient sur le plancher, le cordon du rideau était l'instrument de la strangulation. La fenêtre était fermée et la porte non verrouillée. La mort était survenue au cours de la sixième heure de l'après-midi. Langue pendante, la bouche du mort béait. Cette troisième issue fatale eut pour conséquence que le jour même, plusieurs pensionnaires de l'hôtel Stevens prirent la fuite, à l'exception toutefois d'un professeur de gymnastique de la chambre 16 qui profita de la circonstance pour faire rabattre le prix de la location d'un tiers. Le lendemain, Mary Garden, la célèbre cantatrice de l'opéra comique, s'arrêta devant l'hôtel et négocia pour 200 francs l'acquisition du sinistre cordon, dans l'idée que ce fétiche porterait chance et que les journaux en parleraient. Madame Dubonnet n'en fut cependant que médiocrement consolée. Si cette histoire s'était passée en été, en juillet par exemple, ou en août, elle eût sans doute obtenu le triple de son cordon, et les journaux auraient disposé de copies pour des semaines. Par contre, en cette saison, en plein milieu de la période la plus mouvementée de Tannée, on se demande vainement où la presse aurait trouvé la place de commenter longuement cette affaire de la rue Stevens, alors que les élections, les remous dans les Balkans, l'effondrement financier de New York et la visite du couple royal britannique accaparaient l'opinion. Le triple drame retint donc moins l'attention qu'il ne l'eût mérité, et les comptes rendus qui lui furent consacrés se caractérisèrent par leur brièveté et leur concision. Ils se bornèrent à reproduire objectivement les communiqués de la police et s'abstinrent, en général, de grossir les événements. Ces communiqués représentaient les seuls éléments de l'affaire dont l'étudiant en médecine Richard Braquemont eut connaissance. Il ignorait notamment un petit fait qui sembla à l'époque tellement insignifiant que ni le commissaire, ni aucun des témoins oculaires ne jugea bon de le signaler aux journalistes. Ce n'est que plus tard qu'on s'en souvint, après l'aventure de l'étudiant. Lorsque, en effet, les agents détachèrent le corps du sergent Charles-Marie Chaumier de la Croisée, une volumineuse araignée noire surgit en rampant de la bouche ouverte du cadavre. Le domestique de la maison l'écarta d'une chiquenaude en s'écriant avec dégoût « Oh diable, encore une de ces immondes bêtes !» Au cours de l'enquête ultérieure, celle qui concerna Braquemont, il déclara ouvertement qu'au moment de l'enlèvement du corps du voyageur de commerce suisse, il aperçut, courant sur l'épaule de ce dernier, une araignée en tout point semblable. Mais tout ceci, Richard Braquemont l'ignorait. Il occupa la chambre 2 semaines seulement après le dernier suicide, un dimanche. Ce qu'il y vécut, il l'a noté consciencieusement dans son journal. Journal de l'étudiant en médecine Richard Braquemont. Lundi 28 février. Je suis installé ici depuis hier soir. Après avoir déballé mes deux malles, j'ai pris quelques dispositions pratiques et me suis couché. J'ai merveilleusement dormi. 9 heures sonnaient au moment précis où des coups frappés à la porte me réveillèrent. L'hôtesse parut, en personne, portant mon déjeuner. Elle doit être bien préoccupée à mon sujet, à en juger aux œufs, au jambon et à l'odorant café qu'elle disposa devant moi. Après m'être débarbouillé et vêtu, j'ai, tout en fumant ma pipe, observé la façon dont le domestique nettoyait la chambre. Me voici donc ici. Je sais pertinemment que l'affaire est dangereuse. Je sais aussi que je suis de taille, si l'entreprise me réussit, à l'élucider. Et je peux bien mettre en jeu ma misérable vie s'il est vrai que jadis, Paris valait bien une messe. Sans doute, ne s'en tire-t-on plus aussi facilement aujourd'hui. Une possibilité s'offre à moi et j'entends bien l'exploiter. D'ailleurs, d'autres avaient été aussi malins que moi en bâtissant le même projet. Non moins de 27 personnes se sont efforcées d'obtenir la chambre en intervenant soit auprès de la police, soit chez l'aubergiste elle-même. Parmi elles, 3 dames. Des concurrents, il y en avait donc en suffisance, de pauvres diables comme moi, probablement. C'est pourtant moi qui ai obtenu la place. Pourquoi ? Ah, je fus probablement le seul à émoustiller la perspicace police. Par réflexion, une jolie réflexion. Bien entendu, ce n'était que de la poudre aux yeux. Ce rapport est également destiné à la police. Cela m'amuse de déclarer ainsi, d'entrée de jeu à ces messieurs, que je leur ai monté un joli bateau. Si le commissaire est logique, il se dira « C'est justement pour cette raison que Braquemont me paraît tout indiqué. D'ailleurs, je ne me soucie nullement de ce qu'il dira plus tard. Je suis ici, maintenant. Et je considère comme un présage heureux le fait que mon activité ait commencé par une mystification aussi réussie. Je m'étais adressé d'abord à Madame Dubonnet, qui me renvoya à la permanence de police. J'ai rôdé là durant toute une semaine d'attente. À chaque fois, on prenait ma requête en considération pour me signifier que j'avais à revenir le lendemain. La plupart de mes rivaux avaient déposé les armes depuis longtemps. N'avaient-ils d'ailleurs pas mieux à faire que de piétiner des heures durant dans cette salle d'attente au relent de moisissure ? Déjà, mon opiniâtreté crispait le commissaire. En fin de compte, Il me dit à brûle-pourpoint que cela ne valait pas la peine d'insister, qu'il me savait gré ainsi qu'aux autres de notre bonne volonté, mais qu'il n'était pas question pour les forces de l'ordre de faire appel à des profanes qui embrouilleraient tout, que si je ne pouvais faire état d'un plan circonstancié. Je lui répondis alors que je disposais de pareils plans. C'était évidemment complètement faux, et j'aurais été bien en peine de lui en dire quoi que ce fût. Mais je poursuivis en affirmant que je ne lui communiquerais ce plan, excellent quoique dangereux, car sa mise en place pourrait entraîner le même épilogue que dans le cas du sergent, qu'à la condition qu'il se déclara prêt, sur son honneur, à l'exécuter lui-même. Il me remercia, en ajoutant que le temps lui faisait défaut pour s'occuper d'une entreprise semblable. Je constatai cependant que je reprenais l'avantage lorsqu'il me demanda si je ne pouvais pas lui donner au moins quelque indice. Et je lui en donnais. Je lui racontai une histoire invraisemblable dont je n'avais pas la moindre idée moi-même, un instant plus tôt. Je ne sais d'où me vint brusquement cette pensée étrange. Je lui dis que parmi toutes les heures de la semaine, il en est une qui exerce une influence mystérieuse, l'heure où le Christ disparut de son tombeau pour retourner aux enfers. En fait, donc, la sixième heure vespérale de la semaine juive. Il fut prié de se souvenir que c'est justement à cette heure-là, le vendredi, entre 5 et 6, que les trois suicides eurent lieu. Je ne pouvais en dire davantage pour le moment, mais je lui suggérais de se référer à l'Apocalypse de Saint Jean. Le commissaire fit mine d'y comprendre quelque chose, remercia et me reconvoqua dans la soirée. Je pénétrai dans son bureau à l'heure dite. Devant lui, sur la table, je remarquai le Nouveau Testament. J'avais, dans l'intervalle, fait les mêmes investigations que lui en parcourant l'Apocalypse. Je n'y avais rien compris. Peut-être le commissaire était-il plus avisé que moi. Toujours est-il qu'il déclara courtoisement qu'il croyait pouvoir comprendre mon cheminement de pensée, malgré mes indications moins que précises. Il était prêt à faire droit à mes souhaits et à les rencontrer en tout point. Je dois reconnaître que son concours me fut, en fait, des plus précieux. Il convint avec l'aubergiste que durant mon séjour à l'hôtel, tout serait mis gratuitement à ma disposition. Il me confia un excellent revolver et un sifflet de police. Les agents de service ont reçu ordre de croiser aussi souvent que possible dans la rue Stevens et de monter au moindre de mes appels. Le fait le plus marquant est cependant qu'il ait fait installer dans ma chambre un téléphone qui me permet d'être en communication immédiate avec la permanence. Comme celle-ci n'est pas à plus de 4 minutes, une aide éventuelle peut me parvenir très rapidement. Devant un tel luxe de précaution, je ne vois pas bien de quoi j'aurais peur. Mardi 1er mars. Rien ne s'est produit, ni hier, ni aujourd'hui. Madame Dubonnet a prélevé un nouveau cordon de rideau dans une autre chambre. Celles qui sont inoccupées sont suffisamment nombreuses. Elle tire prétexte de toute occasion pour me rendre visite. À chaque fois, elle m'apporte quelque chose. Je me suis une nouvelle fois laissé raconter les événements dans tous leurs détails, sans apprendre rien de nouveau. Son opinion est toutefois faite en ce qui concerne les causes des décès. Pour elle, la mort de l'artiste est à imputer à un amour contrarié. L'an dernier, une jeune dame vint souvent le voir. Cette année-ci, elle ne parut pas. Elle ignorait sans doute ce qui avait poussé son hôte suisse à son geste fatal. On ne pouvait tout savoir. Mais elle était persuadée que le sergent ne s'était suicidé que pour la faire enrager. Je dois dire que ces explications de la dame Dubonnet me parurent un peu courtes. Mais je l'ai tranquillement laissée jaser. Après tout, elle rompt la monotonie de mes journées. Jeudi 3 mars. Toujours rien. Le commissaire sonne quelques fois par jour et je ne puis que lui dire que je me porte parfaitement bien. Cette information ne le satisfait visiblement pas tout à fait. J'ai sorti mes bouquins de médecine et j'étudie. Ainsi, mon emprisonnement volontaire a-t-il au moins une raison d'être. Vendredi 4 mars, 14h. J'ai très bien déjeuné, sans compter que l'hôtesse m'a apporté une demi-bouteille de champagne. Un véritable festin de condamné. Elle me considère déjà comme mort aux trois quarts. Avant de s'en aller, elle m'a supplié en pleurant de l'accompagner. Elle craignait sans doute que je ne me pende également, rien que pour l'agacer. J'ai examiné attentivement le nouveau cordon de rideau. C'est donc à cela que je devrais me pendre tout à l'heure? Cela ne me tente guère. D'autant moins que le cordon est rugueux et dur et qu'il glisse difficilement dans son nœud coulant. Il faudrait déjà faire preuve de beaucoup de bonne volonté pour suivre l'exemple des autres. Maintenant, je suis à ma table. À gauche, le téléphone, à droite, le revolver. Pas la moindre crainte, mais une curiosité de ce qui va suivre. 6h du soir. Rien ne s'est passé. Pour un peu, j'aurais écrit « dommage ». L'heure fatale vint et les minutes s'égrenèrent comme toutes les autres. Je ne puis certes nier avoir éprouvé à certains moments la tentation de me diriger vers la fenêtre, mais pour d'autres raisons. Entre 5 et 6, le commissaire a bien téléphoné 10 fois, manifestant une impatience identique à la mienne. Madame Dubonnet, par contre, est heureuse. Quelqu'un a vécu toute une semaine dans la chambre 7 sans finalement se pendre. C'est fantastique! Lundi 7 mars. Je suis à présent persuadé que je ne découvrirai rien et je ne suis pas loin de croire que les suicides de mes devanciers sont imputables à un singulier hasard. Persuadé qu'on en trouvera finalement les causes exactes, j'ai prié le commissaire d'entreprendre, une fois encore, des recherches approfondies sur ces trois cas. En ce qui me concerne, je resterai ici aussi longtemps que possible. De ma tour d'ivoire, je ne ferai sans doute pas la conquête de Paris, mais j'y vis gratuitement en y gagnant un embonpoint confortable. Je travaille en outre avec ardeur en constatant que j'assimile progressivement ma matière. Et enfin, j'ai encore une raison de demeurer ici. Mercredi 9 mars. J'ai donc fait un pas en avant. Clarimonde. Ah oui, je n'ai encore rien dit de Clarimonde. C'est bien elle, ma troisième raison de demeurer dans cette maison. C'est aussi à cause d'elle que je me sens poussé à m'approcher de la fenêtre à l'heure fatidique, mais certes pas pour m'y pendre. Clarimonde, pourquoi l'appeler ainsi? Je n'ai aucune idée de son identité, mais il me semble qu'il faut que je la nomme ainsi. Et je parierais que c'est bien son vrai nom, si je l'interrogeais à ce sujet. J'ai remarqué la présence de Clarimonde dès les premiers jours. Elle habite de l'autre côté de l'étroite Nielle, et sa fenêtre se trouve juste en face de la mienne. Elle est assise, là, derrière les rideaux. Je dois d'ailleurs constater qu'elle m'a observé plus tôt que je ne l'ai fait moi-même, et que manifestement, elle m'a témoigné sa sympathie. Rien d'étonnant à cet égard. Toute la rue sait que j'habite ici. Et pourquoi? Madame Dubonnet a fait la publicité nécessaire. Je n'ai rien d'une nature amoureuse, et mes relations avec le sexe opposé ont toujours été assez sommaires. Quand on arrive de Verdun à Paris pour faire sa médecine, en ayant juste assez d'argent pour manger à sa faim tous les trois jours, on pense à tout autre chose qu'à l'amour. Mes expériences sont donc modestes et je me suis peut-être sottement engagé dans cette affaire. Mais quoi, telle qu'elle, elle me plaît. Au début, il ne me vint pas à l'esprit d'entrer en relation avec mon étrange voisine. J'ai d'abord considéré que j'étais ici pour observer et que pour le reste, et avec la meilleure volonté du monde, je n'avais rien à entreprendre. C'est justement cette attitude expectante qui me permettrait, dans mon esprit, d'observer le plus efficacement la personne d'en face. Peut-on en effet rester penché sur ses livres toute la journée? J'ai donc constaté que Clarimonde occupe, apparemment seule, le petit appartement aux trois fenêtres. Elle n'est cependant assise qu'à la fenêtre qui fait face à la mienne. Elle y demeure tout en filant à une petite quenouille démodée. J'ai vu un jour une quenouille de ce genre chez ma grand-mère, qui ne l'utilisait d'ailleurs jamais et qui l'avait héritée de quelques grandes tantes. J'ignorais complètement qu'on se servait encore de cet objet aujourd'hui. La quenouille de Clarimonde est d'ailleurs un petit objet précieux, blanc et probablement en ivoire. Elle doit ourdir des trames minuscules. Toute la journée, elle se tient derrière les rideaux et travaille sans désemparer. Vienne l'obscurité et elle s'arrête. Le soir, tombe vite dans la petite rue en ces journées brumeuses. À 5 heures, c'est le crépuscule. Je n'ai jamais aperçu de lumière dans sa chambre. Son aspect général? Je n'en ai pas une idée précise. Elle porte en ondulation ses longs cheveux d'ébène et semble assez blafarde. Le nez est petit et étroit et les ailes en sont très mobiles. Les lèvres aussi sont pâles et il me semble que ses petites dents sont aiguisées comme celles de bêtes de proie. Les paupières masquent largement le regard, mais lorsqu'elle les relève, les grands yeux sombres étincellent. Pourtant, je pressens tout ceci beaucoup plus que je n'en ai conscience. Il est malaisé d'obtenir une perception nette au travers des rideaux. Encore quelque chose. Elle porte constamment une robe noire fermée haut et parsemée de mouchetures lilas. Avec cela, de longs gants noirs, sans doute pour ne pas s'abîmer les mains au travail. Il est étrange de voir comme les fins doigts noirs saisissent et tirent rapidement les fils, apparemment à tort et à travers, faisant songer à quelques grouillements de pattes d'insectes. Nos relations réciproques? Eh bien, elles sont très superficielles, et pourtant il m'apparaît parfois qu'elles plongent beaucoup plus profond. Cela a commencé lorsqu'elle jeta un regard en direction de ma fenêtre, tandis que j'en faisais autant en direction de la sienne. Elle m'observait et je l'observais. Et il faut croire que j'ai dû lui plaire, car un jour que je la regardais à nouveau, elle me sourit, et moi, de sourire en retour. Ce petit jeu se poursuivit quelques jours. Nous nous sourions toujours plus fréquemment. Ensuite, je me suis promis presque d'heure en heure de la saluer. Je ne sais pas au juste ce qui m'a toujours retenu de le faire. Finalement, cet après-midi, je m'y suis décidé. Et Clarimonde m'a rendu mon salut. Oh, très doucement, mais j'ai bien vu qu'elle avait incliné la tête. Jeudi 10 mars. Hier, je suis resté longtemps penché sur mes livres. Je ne peux pas dire précisément que j'ai beaucoup étudié. J'ai bâti des châteaux en Espagne et j'ai rêvé de Clarimonde. J'ai eu un sommeil agité, jusque tard dans la matinée. Quand je m'approchais de la fenêtre, Clarimonde y était déjà. Je la saluai et elle me répondit. Elle souriait et me contempla longuement. Je désirais travailler, mais ne trouvais pas la sérénité. Je m'assis à la fenêtre et la regardais fixement. Je vis à ce moment qu'elle aussi se croisait les bras. Je refermai le rideau blanc en saisissant le cordon et presque au même moment, elle agit de même. Nous rîmes tous deux et nous nous contemplâmes mutuellement. Il me semble que nous sommes demeurés une heure dans cette position. Puis, elle se remit à filer. Samedi 12 mars. Les jours s'écoulent ainsi. Je mange et je bois, je m'installe à ma table de travail, j'allume ensuite ma pipe et me penche sur un livre. Je n'en lis cependant pas une seule syllabe. J'essaie constamment, mais je sais d'avance que c'est peine perdue. Je me dirige ensuite vers la croisée. Je salue et Clarimonde me remercie. Nous sourions et nous nous regardons durant des heures. Hier après-midi, vers la 6e heure, j'ai été pris d'une certaine agitation. Le crépuscule est tombé très tôt et j'ai ressenti une certaine peur. J'étais devant ma table de travail et j'attendais. J'éprouvais un besoin presque irrépressible de me diriger vers la fenêtre. Non pas, bien sûr, pour m'y pendre, mais pour contempler Clarimonde. Je bondis sur mes pieds et pris place derrière le rideau. Jamais, me semble-t-il, je ne la distinguais si nettement bien qu'il fit déjà presque nuit. Elle filait, mais ses yeux me rejoignaient. Je ressentis un étrange bien-être, joint à une légère anxiété. Le téléphone retentit. J'éprouvai une vive irritation à l'écart de ce commissaire niais dont les ineptes questions me tiraient de mes rêveries. Ce matin, il m'a rendu visite avec Madame Dubonnet. Elle est assez satisfaite de ses soins, car c'est pour elle une source de contentement total de constater que j'occupe déjà depuis 2 semaines la chambre 7 et que je suis encore en vie. Mais le commissaire, lui, souhaite en outre avancer dans son enquête. J'ai fait, dans une affaire hautement étrange, des allusions selon lesquelles je serais sur une piste. L'imbécile m'a cru sur parole. De toute manière, je puis encore demeurer ici durant 2 semaines, et c'est mon unique désir. Non pas en raison de la cuisine et de la cave de Madame Dubonnet, qu'on devient vite indifférent à tout cela lorsqu'on est perpétuellement rassasié, mais à cause de sa fenêtre, que Madame Dubonnet hait et craint, et qui me tient tant à cœur, cette fenêtre qui me montre Clarimonde. Dès que ma lampe est allumée, je ne la vois plus. Je me suis écarquillé les yeux pour me rendre compte si elle sort de chez elle, mais je ne l'ai jamais vue mettre un pied dans la rue. Je dispose d'un grand fauteuil confortable et le rayon de ma lampe surmonté d'un abat-jour vert m'enveloppe d'une quiète chaleur. Le commissaire m'a apporté un grand paquet de tabac, le meilleur que j'ai jamais fumé, et malgré cela, je ne sais pas me mettre au travail. Je lis 2 ou 3 pages, et lorsque j'arrive au bout, je me rends compte que je n'ai pas compris un mot. L'œil seul enregistre les caractères, tandis que le cerveau refuse tout service. Étrange, comme s'il portait un panneau avec l'inscription « Entrée interdite ». Comme s'il ne tolérait plus d'autres pensées que celle, unique, de Clarimonde. Finalement, j'écarte les livres, je me cale dans mon fauteuil et je rêve. Dimanche 13 mars. Ce matin, j'ai assisté à une petite scène. Je me promenais de long en large dans le corridor pendant que le domestique rangeait la chambre. Devant la petite fenêtre de la cour, pend une toile d'araignée, au centre de laquelle trône une grosse arachnide cruciforme. Madame Dubonnet n'entend pas qu'on s'en débarrasse. Après tout, les araignées portent bonheur. Et n'a-t-elle pas eu assez de déboires dans sa maison? Et voici qu'une autre araignée, beaucoup plus menue, se mit à tourner autour de la toile, un mâle. Prudemment, il effleura le fil fragile du milieu, mais dès que la femelle faisait mine de bouger, il se retirait au plus vite, s'en prenait à un autre côté et essayait à nouveau de se rapprocher. Enfin, la femelle sembla répondre à ses avances, car elle ne fit plus aucun mouvement. Le mâle tira sur un fil, légèrement d'abord, puis plus franchement, de sorte que toute la toile se mit à vibrer. Mais celle qu'il sollicitait se tint coite. Alors il se rapprocha rapidement, mais avec une prudence extrême. La femelle l'accueillit tranquillement et consentit calmement et tout abandonné à ses tendres supports. Immobiles, ils demeurèrent tous deux de longues minutes figés au centre de la grande toile. Je vis alors le mâle se détacher lentement, une patte après l'autre. On avait l'impression qu'il voulait se retirer en silence et laisser sa compagne seule dans son rêve d'amour. Brusquement, il lâcha prise complètement et s'éloigna de la toile aussi vite qu'il put. Au même instant, cependant, une vie sauvage s'empara de la femelle, qui, rapidement, entama la poursuite. Le petit mâle débile se laissa glisser le long d'un fil, tandis que la bien-aimée faisait la même acrobatie. Tous deux tombèrent sur le châssis de la fenêtre. Faisant appel à toutes ses énergies, le mâle chercha à s'échapper. Trop tard. Déjà, sa compagne de tout à l'heure le saisissait brutalement et le reportait en plein milieu de la toile. Et cette place qui servit il y a quelques instants à peine de théâtre à de voluptueuses amours offrit maintenant un spectacle bien différent. En vain, l'amoureux se démena-t-il en agitant en tous sens ses petites pattes, essayant de se dégager de cet embrassement fou. La bien-aimée ne le lâcha pas. En quelques minutes, elle l'embobina au point qu'il ne pouvait plus remuer un membre. Alors, plongeant ses fortes tenailles dans le corps de son amant de tout à l'heure, elle en aspira le sang à longs traits. Je la vis encore détacher et rejeter avec mépris hors du nid le malheureux petit âme méconnaissable, pattes, peau et fil. Voilà donc comment ces animaux conçoivent l'amour. Eh bien, je me félicite de ne pas être un enfant araignée.